Bonjour et bienvenue à l'équipe de La Pielle qui habite au. Je vous présente les participants. Bonjour. À cette conférence de presse. À ma gauche, quelques-uns des interprètes du film, Blanca Suarez et Jan Cornet. À ses côtés, Elena Anaya, qui retrouve son metteur en scène de Parle avec elle et que les Français ont vu dernièrement dans Mestrine et dans À bout portant. À l'extrême gauche de la table, Agustin Almodovar, producteur des films de son frère et co-scénariste de La Pielle qui habite. À ses côtés, bien évidemment, Marisa Paredes, qui retrouve une nouvelle fois son metteur en scène de Talon aiguille, Tout ce ma mère parle avec elle et quelques autres. À ses côtés, bien évidemment, Antonio Banderas, qui 22 ans après Attache-moi, retrouve le metteur en scène de ses débuts, de Matador, La loi du désir, Le labyrinthe des passions. Et au centre de la table, Pedro Almodovar, accompagné de sa traductrice, Isabelle Seguela. Pardon. Pedro, une première question. Dans votre filmographie, il y a très peu de films qui sont adaptés d'un roman. À ma connaissance, c'est le deuxième ou le troisième. Qu'est-ce qui, dans le roman de Thierry Jonquet, vous a donné envie de faire ce film-là?
Bueno, yo leí hace como 10 años la novela de Thierry Jonquet y la leí muy rápido. Es de ese tipo de novelas que uno lee en un trayecto rápido de avión y que son muy agradables. Lo que más me llamó la atención, y creo que es lo único que permanece en la novela, porque yo me he alejado a lo largo de estos 10 años mucho del original, lo que me llamó la atención básicamente fue la magnitud de la venganza de este médico con quien supone que ha violado a su hija. Yo, como eso no estaba claro en la novela, en el guión lo he dejado que esté menos claro todavía. Es decir, el personaje que interpreta Jan Cornet no viola a su hija. Hay consentimiento, aunque sea un consentimiento un poco psicótico, pero hay consentimiento de ella. Lo que pasa es que se cruza una canción que le trae el pasado a la chica y eso complica toda la situación, como acabáis de ver.
En fait, j'avais lu ce roman de Thierry Jonquet il y a 10 ans. Je l'avais lu très vite parce que c'est un roman qu'on peut lire le temps d'un trajet en avion, un roman très agréable à lire comme ça. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, et c'est la seule chose que j'ai finalement conservée dans le film, parce qu'au cours de ces 10 ans, je me suis beaucoup éloignée de l'histoire originale, mais ce qui m'avait frappé, c'était l'ampleur de la vengeance de ce personnage, ce médecin, qui se venge de celui qui a violé sa fille. Et en fait, dans le film, il n'y a pas véritablement viol, il y a consentement, mais c'est un consentement dans une situation un peu psychotique et à un moment où elle se souvient d'une chanson qui lui rappelle son passé, enfin comme vous l'avez vu dans le film.
Première question, monsieur là-bas au fond.
Pedro, good morning. This is Roger Friedman from Parade Magazine, Showbiz 411.
Hello.
I want to make sure, first of all, you're not a Nazi. I'm pretty sure you're not.
No. No. I don't think it's necessary to answer this question.
No. second of all, I love the movie. What's the significance of the of Robert and the tiger being brothers?
¿Cuál es el significado de que el tigre y Robert sean hermanos?
Bueno, significa que forman parte de la misma familia y que esa familia es una familia feroz, empezando por la madre. Esa es una de las razones por las que situé el origen de esta familia en Brasil, un lugar donde además también hay una gran tradición sobre el, yo creo que los primeros cirujanos estéticos de los que yo oí hablar fue Pitangui, que es un brasileño. Si vive es que debe ser eterno, porque debe tener 100 años. Pero yo sobre todo quería que fuera una familia muy salvaje y sobre todo muy independiente moralmente hablando. Una familia que no hubiera tenido la misma educación que cualquier español. Es decir, que su cultura no estuviera basada en el castigo y en el pecado, como la cultura en la que yo he nacido y vivido, que tuvieran otras raíces. Entonces, es una familia muy, muy salvaje. La misma madre, interpretada por Vanessa Paredes, dice que lleva la locura en sus entrañas y, en efecto, ha dado a luz a dos hijos paralelos que son igualmente mucho más locos que ella. Uno se decide por la calle y el otro se decide por el quirófano, pero ambos son dos seres extraordinariamente violentos y amorales.
¿Me dejas traducir? Ils sont frères dans le film parce que ce que je voulais, c'est qu'ils soient de la même famille, une famille féroce, en commençant par la mère. La mère qui a donné naissance à deux fils. Et c'était la raison pour laquelle, d'ailleurs, à l'origine, cette famille vient du Brésil, parce que au Brésil, il y a une grande tradition de chirurgien esthétique. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de chirurgie esthétique, c'était Pete Tanguy, qui est un chirurgien très connu du Brésil. S'il vit encore, il doit avoir une centaine d'années, il ne doit plus être chirurgien aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que je voulais, c'est que ce soit une famille sauvage, qui, en fait, est complètement indépendante, qui est indépendante sur le plan moral, qui n'a pas été éduquée dans la même tradition que celle que connaissent les Espagnols, cette tradition du péché et du châtiment, cette tradition judéo-chrétienne finalement, cette culture dans laquelle moi je suis née, dans laquelle j'ai baigné, dans laquelle j'ai été éduquée. Ce que je voulais, c'est que ce soit une famille qui ait d'autres racines, des racines sauvages, en commençant par la mère, interprétée par Marisa Paredes, qui dit elle-même dans le film, je porte la folie dans mes entrailles. Et effectivement, elle a donné naissance à deux fils en parallèle qui sont tout aussi fous l'un que l'autre, sauf que l'un a choisi la rue, l'autre a choisi la chirurgie esthétique, mais ce sont deux êtres qui portent en eux une extraordinaire violence.
Sino, y también, el personaje de Antonio necesita un cómplice para mantener la casa. Entonces, ¿qué mejor cómplice que su propia madre? No importa que él no sepa que es su madre, es la mujer que ha estado con él desde que nació, entre otras cosas porque le dio a luz, pero también es este tipo de sirvienta que ha estado en su casa desde que es pequeño y se convierte en la mejor cómplice para él.
Et puis il fallait que le personnage d'Antonio ait un complice pour pouvoir entretenir cette maison secrète. Et quel meilleur complice pourrait-on trouver que sa propre mère, même si lui ne sait pas que c'est sa véritable mère. Mais elle lui a donné naissance et puis elle est ce personnage de la servante qui est toujours présente dans la maison depuis la naissance de l'enfant, donc depuis sa petite enfance, et il l'a comme complice.
Monsieur, sur l'escalier.
Hi, this question is for Pedro. Pedro, this film is very exciting, and some say it's a thriller, which is
very sad.
Exciting.
Oh,
exciting, yes. And some say it's a thriller, different than some of your other work. Is that something that we can expect in the future? And Marisa, your characters are very, very deep. Is this something that you get attributes in your personal life from your characters, or are you able to separate yourself from your characters after your films?
Cuando acabas la película te separas completamente de los personajes y es el tipo de películas que vas a querer volver a hacer, un thriller así como este.
Bueno, no sé cuál es la pregunta exactamente.
Hay dos. Es un thriller. ¿Vas a hacer otros thrillers en el futuro? Esa es la primera. Y la segunda, el personaje. Sí. Si te identificas con el personaje...
Perdón. Excuse me. El thriller... Últimamente yo he ido pasando a lo largo de mi vida... de mi trayectoria personal y cinematográfica por diferentes géneros que han sido favoritos en ese momento. Yo creo que empecé con la comedieta pop, he seguido con melodramas, etcétera, etcétera, y sí que ahora mismo el thriller probablemente para mí es el género que reúne además las posibilidades de casi... ¿cómo te diría? De compartirlo con otros géneros, porque soy incapaz de... de respetar las reglas de los géneros. Creo que uno no puede hacer ya un género como el thriller o el melodrama o el musical o tal, como se hacía con la misma inocencia que se hacía en los años 50 o en los años 40. Entonces, digamos que el thriller ahora es uno de mis géneros favoritos y no sé cuál será la próxima película, aunque estoy escribiendo, pero sí que es muy probable que vuelva a incidir en este género. De hecho, cuando buscaba referencias para guiarme en cómo afrontar el rodaje de La piel que habito, pasé por todo lo que es el terror, cinematográficamente hablando, y donde al lugar donde más me interesó fue en este tipo de thriller de los años 40, tipo Fritz Lang. Y de hecho, en un momento estuve tentado de orientar la película hacia o hacerla a la manera de Fritz Lang, un Fritz Lang que incluyera el de el cine mudo y el de los maravillosos thrillers americanos que hizo inmediatamente. El guión no se ajusta exactamente a una película de Fritz Lang, pero esa había sido mi tentación al principio. De hecho, y eso no se lo dije a ninguno de los que estaban en la mesa, durante varios meses estuve tentado de hacer la película en blanco y negro y muda para acercarme realmente a esa zona que era la que más me interesaba. Pero después, bueno, creo que tampoco lo encontré apropiado, entonces, bueno, seguí mi propio camino. Pero sí, es muy posible que incida en este género en el futuro. Y con respecto al personaje de Antonio, hombre, el personaje de Antonio no me representa exactamente, a pesar de que un director es lo más parecido a Dios. Quiero decir, el privilegio que tiene un director de poner en pie sus fantasías y que haya todo un equipo y artístico y técnico que esté pendiente de ti para hacer la realidad, realmente creo que es el máximo poder que se puede tener, o por lo menos el máximo al que yo puedo acceder y que me gusta. Pero el personaje de Antonio es un creador. Es un hombre que está a punto ya de crear vida, o sea, crea una nueva piel, lo cual ya, quiero decir, es una creación bastante, bastante importante. La piel es el principal órgano que tenemos, es lo que nos identifica, lo que nos separa de los demás. Es un personaje que desde el principio es un psicópata, es un tipo que no tiene ningún escrúpulo, que no tiene la menor capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Eso le hace ser como es. Es un personaje extremo desde el principio. Y bueno, yo no soy exactamente así, pero es un personaje que viene muy bien para una película como esta, porque nos promete crueldades sin cuento, a lo que naturalmente tiene que corresponder después un personaje como el de Elena, con una capacidad extraordinaria para sobrevivir a toda esa crueldad.
C'est un thriller, en fait, que j'ai fait cette fois-ci parce que ça correspond à la période actuelle de ma vie. En fait, au long de ma vie personnelle et aussi de ma trajectoire cinématographique, j'ai eu des genres de films favoris. J'ai commencé par la comédie pop, ensuite le mélodrame, et maintenant je suis plutôt dans la période du thriller. Et aussi parce que je considère que ce genre, aujourd'hui, permet de réunir différentes possibilités. Donc c'est un genre qui permet aussi d'accéder à tous les autres genres cinématographiques. De fait, moi, je ne me crois pas capable de respecter les règles de tel ou tel genre strictement, soit le mélodrame ou la comédie musicale ou le thriller. Je ne serais pas capable de le faire comme on le faisait avec une certaine innocence dans les années 50 ou dans les années 40. Donc c'est vrai, le thriller c'est mon genre aujourd'hui et je pense que effectivement j'y reviendrai dans des films futurs. Et lorsque de fait j'ai commencé à envisager le tournage, que j'ai commencé à réfléchir. J'ai pensé d'abord aux films de terreur, j'ai pensé aux différents thrillers des années 40, j'ai beaucoup pensé à Fritz Lang. Et je dois dire que j'ai d'abord envisagé de faire un film à la manière de Fritz Lang, comme les Fritz Lang, tant de l'époque muette que de l'époque suivante aux États-Unis. Et mon scénario, au début, devait se rapprocher de quelque chose qui aurait ressemblé à Fritz Lang. Au début, d'ailleurs, et ça c'est quelque chose que je n'ai jamais dit à ceux qui sont à la table avec moi aujourd'hui, pendant les premiers mois où j'ai commencé à penser au film, je pensais faire un film en noir et blanc et un film muet. Mais finalement, c'est un autre espace qui m'a intéressée. J'ai voulu faire mon film à moi, quelque chose qui me soit propre. Et finalement, c'est ce thriller-là, avec ce genre pas complètement défini, que j'ai fait. Ensuite, le personnage, je m'avais posé une question sur le personnage. Est-ce qu'il me représente, ce personnage? Est-ce que c'est moi? Bon, quand on est réalisateur, en fait, c'est vrai que c'est ce qui se rapproche le plus de Dieu, c'est-à-dire que on peut donner forme à son imagination, à son imaginaire, à ses fantasmes. On a toute une équipe, des acteurs à notre service qui peuvent réaliser nos fantasmes, les images de notre imagination. Et pour moi, c'est un immense pouvoir, le pouvoir de créer cela. C'est en tout cas ce qui, moi, m'intéresse. C'est à ça que j'aspire et c'est ce qui me plaît. Mais le personnage qui est incarné par Antonio est lui aussi un créateur, et un immense créateur, puisqu'il est sur le point de créer la vie. En tout cas, il a réussi à créer une peau entièrement nouvelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette création dès le départ d'un organe qui est un organe qui nous permet en fait de protéger notre identité, qui est l'organe du corps qui nous sépare des autres. Et pour moi, c'était très important que ce personnage, qui est un personnage complètement psychopathe, un personnage sans scrupules, ait ce pouvoir. Et je dois dire que c'est un personnage qui est un personnage extrême dès le début du film. Et de ce point de vue-là, il ne me ressemble pas beaucoup. Un film de ce type, en fait, n'est possible avec un tel personnage aussi cruel que celui qui est incarné par Antonio que s'il y a le personnage inverse, qui est celui incarné par Elena, qui a une capacité de survie absolument extraordinaire.
Porque en definitiva, la historia de la película, que se puede contar de muchos modos, es una historia de supervivencia. Es una historia de supervivencia en una situación extrema y que en definitiva es un tema eterno, es el tema más antiguo del mundo.
Finalement, l'histoire du film, c'est tout simplement une histoire de survie dans des conditions externes extrêmes, et ça, bien entendu, c'est le problème éternel de l'humanité.
Monsieur au premier rang.
Bonjour, Hugues Daillé, Télévision Belge. C'est une question pour Pedro Almodovar. Vous avez mentionné Fritz Lang, vous avez mentionné le noir et blanc. En voyant le début de votre film avec le trio, le chirurgien, la mère qui est un petit peu la bonne à tout faire et la jeune fille captive, j'ai pensé à un grand classique français du cinéma fantastique, Les yeux sans visage de Georges Franju avec Pierre Brasseur, Alida Valli et Edith Scob, qui est un film qui vire plus vers le fantastique poétique. Est-ce que c'est une influence? Et est-ce que vous avez pensé aussi aller plus vers le fantastique et quitter les rives du réalisme? Merci beaucoup.
Que si ha sido una referencia a esa película de Franju y que si has pensado en dejar el realismo y ir hacia el fantástico, el género fantástico.
Sí, evidentemente, Los ojos sin rostro de Georges Franju estaba en mi cabeza cuando estaba escribiendo la película. Et también quand pensaba rodarla.
Oui, et bien évidemment, Les yeux sans visage de Georges Franju était dans ma mémoire et j'y songeais même pendant le tournage.
Yo creo que probablemente, hablando de alguna otra película de, como referencia, la única clara referencia concreta era esta película, Los ojos sin rostros, que me la conozco de memoria.
Et en fait, si on veut parler de référence, je crois que la seule référence véritablement claire et précise que j'avais en tête, c'est justement celle-là, Les yeux sans visage, qui est un film que je connais par cœur.
Y eso sí era una orientación para mí porque quería hacer este tipo de película que yo no sé si es fantástica porque todo lo que se habla de la transgénesis, cuando empezamos a escribirlo, esa es la parte que en la que me ha ayudado mi hermano, por eso le he puesto en los títulos de crédito, era algo que después del descubrimiento del genoma, más o menos, los científicos estaban desarrollando, pero todavía no era una realidad. Según he ido escribiendo el guión, la transgénesis es una realidad que la bioética naturalmente detiene en cuanto a posibilidad de mezclar el ser humano con otras especies, pero que se desarrolla en cualquier otro campo, los alimentos, las telas, etcétera. Exceptuando, quiero decir, esa parte que no está en los ojos y en rostros, lo único que me quedaba era poner animales como los perros que aparecen en la película para ya tener todos los elementos. De todos modos, no sé por qué he empezado a hablar de la transgénesis. A propósito.
¿Cómo es la referencia?
Sí. Bueno, en el momento de los ojos sin cara no existía todavía ni la posibilidad ni se sabía lo que era el genoma. Que entonces, no, esto era para decir que no sé tampoco hasta qué punto es una película de ciencia ficción en el sentido en que ya cuando estábamos rodando en Granada, por ejemplo, hay un laboratorio donde se hace piel artificial. Entonces, los experimentos que está haciendo este hombre son ya reales. Pero sí que yo quería que, ya que me acercaba a un género que en efecto se califica en general como fantástico, que yo sí quería esa referencia de acercarme a la referencia de los ojos sin rostro, es decir, o sea, una especie de un terror o un suspense donde no hubiera sangre. Quiero decir, en esta película hay muchas incisiones en la piel del papel que representa Jan y Elena, pero yo quería alejarme absolutamente del gore, de la sangre, del espectáculo realmente brutal, morfológicamente hablando, digo morfológica respecto a nuestro cuerpo, y como en La piel sin rostro no quería que hubiera nada de sangre y que uno entendiera realmente todos los procesos que ha llevado a cabo el personaje de Antonio. O sea que sí que era una buena referencia.
Pour moi, en fait, le genre fantastique, qui est celui auquel appartient le film Les yeux sans visage, ici ne s'applique pas dans mon film, parce que la transgénèse, les expériences sur le génome sont aujourd'hui une réalité. Et pour cette partie-là, d'ailleurs, la partie plus scientifique, c'est mon frère qui m'a aidé à faire les recherches, et c'est la raison pour laquelle il figure au générique. Aujourd'hui, le génome humain a été découvert, étudié, et toutes ces expériences qui sont développées sont une réalité, ce qui n'était pas le cas au temps de Franju, bien entendu. Et au fur et à mesure que j'écrivais le scénario, en fait, j'ai eu ces informations sur ces expériences qui se font aujourd'hui et sur la transgénèse, qui sont bien encadrées par la bioéthique qui empêche, par exemple, que l'on puisse faire des expériences où l'on croiserait des êtres humains avec d'autres espèces, mais ces expériences génétiques, ces manipulations génétiques sont utilisées pour l'alimentaire ou pour les tissus, les vêtements, etc. Et donc, dans les yeux sans visage, ce n'est pas le cas. Moi, dans mon film, j'ai voulu aussi qu'il y ait des animaux. Pour qu'il y ait cette référence, justement, à la bioéthique, à ces expériences transgénétiques. Et donc, on voit un chien, par exemple. Mais c'est la raison pour laquelle, moi, je pense que mon film n'appartient pas au genre fantastique ni à la science-fiction, puisque aujourd'hui, ces expériences existent. D'ailleurs, il y a un laboratoire en Espagne, à Grenade, où on fabrique, il y a des expériences pour fabriquer de la peau artificielle. Donc ce sont des choses qui sont réelles aujourd'hui. Mais c'est vrai que Les yeux sans visage, le genre fantastique en général, a été une sorte de référence, ainsi que les films de terreur. Mais ce qui est important pour moi, c'est le suspense. Et qu'il n'y ait pas de sang, qu'il n'y ait pas cette vision du sang. Bien sûr, il y a beaucoup d'incisions chirurgicales dans le film, des incisions dans la peau de Yann ou d'Elena. Mais je ne voulais pas que ce soit un film gore où on voit le sang qui dégouline avec un spectacle brutal de ce type. Bien sûr, il y a le corps est très important, la morphologie est très importante, mais exactement comme dans Les yeux sans visage, je voulais que l'on comprenne que tout ça avait lieu sans montrer ces images gore. Donc la référence était bonne.
Mademoiselle derrière.
Conchita Casanovas, Radio Nacional de España. Una pregunta para Pedro Almodóvar y otra para Antonio Banderas. Question pour Pedro et pour Antonio. Pedro, vous avez refait en certaine façon Frankenstein. No sé si es consciente, pero a mí me ha parecido que había rehecho de manera muy original Frankenstein. Y la pregunta para Antonio Banderas, pour Antonio, c'est le rôle plus fort de votre carrière. C'est le papel más fuerte de tu carrera. No te han dejado sonreír ni mostrar demasiado encanto, ¿no? En esta película. Vous qui étiez toujours si charmant dans les films.
Bueno, si me menciona Frankenstein, evidentemente Frankenstein está incluida, pero, o sea, quiero decir, una vez terminada la película, naturalmente yo oigo múltiples resonancias con una mitología o cinematográfica o griega, porque también está el mito del titán, de Prometeo, que Prometeo es el origen de Frankenstein. Quiero decir, Frankenstein es para Mary Shelley el nuevo Prometeo, el titán que le robó la luz a los dioses para dársela a los mortales. En este caso, la luz es la transgénesis. Sería lo que, quiero decir, lo que convertiría a Antonio en un titán. Sí, o sea, evidentemente, quiero decir, alguien que a base de parches forma un cuerpo que cobra vida. Bueno, el cuerpo de ella ya tiene vida, afortunadamente. Incluye el mito de Frankenstein. El mito de Frankenstein, quiero decir, es bienvenido a la familia. Entonces contad con que está aquí sentado con nosotros. Sí, no. Yo me he dado cuenta más una vez que he terminado la película que es una referencia evidente. Y de hecho, además, también pensando en ello y pensando en la creación de Frankenstein por Mary Shelley, como decía, también incluso Prometeo está presente también de un modo natural, ha acudido él solo sin que le convoquemos. Aunque yo creo que Prometeo, que sería en este caso el personaje de Antonio, porque es el personaje que crea esta nueva piel, pero yo creo que está más incorporado, sin embargo, por la víctima en este caso. Él, que incluso está encadenado, que es el personaje de Jan en el periodo en que está cautiva, que está cautivo y está siendo domado.
Frankenstein, effectivement, c'est une référence que j'ai plutôt remarquée moi-même une fois le film terminé, en fait. Et j'en entends beaucoup parler depuis, c'est vrai, cette résonance avec Frankenstein et avec toute la mythologie à la fois des titans et de Prométhée qui sont à l'origine du personnage de Frankenstein. Les titans qui avaient volé la lumière pour pouvoir la donner aux humains. Prométhée, donc, qui est le créateur. Et dans ce cas, Antonio est à la fois le titan et aussi le créateur, puisqu'il prend ses morceaux de peau pour créer un corps, le corps d'Elena. Enfin, heureusement, Elena a un corps à elle, hein, heureusement. Mais Frankenstein, pourquoi pas ? Il est bienvenu dans la famille, dans cette famille. Il est bienvenu, il doit être d'ailleurs autour de la table avec nous, certainement. Mais c'est vrai que cette référence, moi, je ne l'ai vue qu'une fois le film terminé. Et puis, il y a l'aspect création qui est incarné par Prométhée et qui, ici, se fait par, justement, ses expériences génétiques et ses manipulations génétiques. Et donc, Prométhée, le créateur, est incarné là par la victime. Hein, la victime, Yann, qui est enchaîné et qui, à la période, pendant la période où il est captif et où il est dompté, est véritablement ce personnage de Prométhée.
Sí, no, y para terminar, es una breve nota, que para en el momento en que Mary Shelley creó el Frankenstein, la electricidad era lo que ahora significaba, era lo que ahora significa la transgénesis.
Et au moment où le personnage de Frankenstein a été créé hein, par Mary Shelley, c'était l'électricité qui était la nouveauté, et aujourd'hui, ce sont ces manipulations.
La lo que daba la luz, lo que creaba la luz, lo que hacía que Frankenstein estuviera vivo.
Ce sont ces manipulations génétiques aujourd'hui, et dans Frankenstein, c'est l'électricité qui donne la lumière et qui fait que Frankenstein prend vie.
Antonio,
si la historia de mi vuelta con Pedro Almodóvar después de poco más de 20 años, se puede resumir en la historia de una lección que, aunque ya sea una lección aprendida, no está mal refrescar de vez en cuando. Y esto es que la creación no está en lugares cómodos, no está en los trucos, no está en los artificios, sino que está en un espacio de caminos muy complejos, donde el vértigo forma parte de eso, en el sacrificio, en la inseguridad, en muchísimos casos. Y Pedro ha tenido, como siempre, la habilidad de situarme en ese terreno, que se concretaba en esta película en un trabajo muy económico, gestualmente, donde realmente todo el mundo que acarrea el personaje es un mundo muy interiorizado. Es como una tonalidad casi continua durante toda la película, que pretende dejar un pozo final, ¿no? A través de esa tonalidad uno va descubriendo que es un personaje con un cierto tormento, con una historia que va apareciendo a medida que vamos avanzando durante la narración, pero sin grandes gestos, sin grandes cosas frente a la cámara, que al mismo tiempo yo creo que entronca perfectamente con la psicopatía del personaje, es decir, la desafección absoluta que tiene por el dolor de los demás. Para mí era... yo me tuve que meter en un trabajo casi saliéndome un poco del personaje, es decir, este señor le hace una vaginoplastia al personaje y cuando se lo comunica es como el que le está mandando aspirinas a una señora en una consulta. Es de esa absoluta frialdad. Y eso, de alguna manera, yo creo que Pedro era lo que buscaba que produjera un cierto horror frío. No es un horror directo que te produce un susto y que de pronto te hace tener un repullo en la sala cuando estás viendo la película, sino que es algo que se te va metiendo dentro y que probablemente siga ahí el público reflexionando incluso un poco más tarde de haber visto la película, cuando se da cuenta de que las cosas que esta gente, no solamente el personaje mío, sino el de Marilia, que interpreta Marisa Paredes, con la naturalidad que durante un desayuno esta mujer le dice: ¿por qué no la matas? Y el otro le dice: ¿por qué te la quieres quitar de encima? Hay una serie de diálogos dentro de la película que están dichos con una naturalidad absoluta, pero que si uno los piensa en relación a la historia que estamos viviendo, son realmente horripilantes, ¿no? Entonces, de alguna forma, el trabajo que Pedro hace conmigo también es un trabajo que no solamente venía bien al actor por la economía pura y dura del actor actuando, sino porque el personaje, en este caso muy específico, lo estaba pidiendo a gritos. Y efectivamente no me ha dejado sonreír mucho, no me ha dejado entrar en los terrenos en los que comúnmente yo había entrado. Eso, hoy aquí públicamente, yo se lo agradezco, aunque reconozco que ha sido difícil.
L'histoire, en fait, C'est une histoire qui, de mon histoire avec Pedro, c'est une histoire qui reprend effectivement au bout de 20 ans et on peut la résumer simplement en une leçon que j'ai apprise et également qui m'a obligée à réfléchir sur ce que c'est que la création. Et la création, quand on est acteur, ce n'est pas de se sentir à l'aise et d'utiliser les artifices qu'on utilise habituellement. La création, elle n'est possible pour un acteur que si on se retrouve dans cet espace où nous place Pedro, qui est un espace sans complaisance. C'est un espace où on est en plein vertige, où en plein sacrifice, où on est vulnérable. Et c'est là que Pedro nous oblige à aller et trouve en nous ce qu'il y cherche. Et effectivement, dans ce film, j'ai travaillé à l'économie pour pouvoir intérioriser les sentiments et refléter cette tonalité que Pedro voulait donner au film et au personnage. Et ce n'est qu'au fur et à mesure que l'histoire se déroule, que la narration se fait, que l'on s'aperçoit que ce personnage est un personnage tourmenté par tous les épisodes de sa vie. Mais ce tourment, il ne le montre pas en faisant de grands gestes devant la caméra, comme je pourrais le faire par ailleurs ou dans d'autres films. Ce tourment, c'est le tourment de quelqu'un qui est psychotique et qui ne ressent pas la douleur des autres. Il est incapable de la moindre empathie avec la douleur des autres. Et on le voit par exemple dans la scène où il annonce au personnage de Yann qu'il vient de lui faire une vaginoplastie. Et il lui annonce ça comme il annoncerait à quelqu'un qu'il lui fait une ordonnance pour des aspirines. Et c'est cette froideur absolue que je devais incarner. Et c'est cela qui était important dans le film. Quand les spectateurs voient le film, l'idée ce n'est pas qu'ils soient horrifiés par des images frappantes avec des grands gestes et qu'il y ait un soubresaut dans la salle. Non, le public ressent petit à petit ce malaise, cette cruauté, cette folie qui s'imprègne petit à petit. Et je crois d'ailleurs que le public continue à y penser une fois qu'il est sorti de la salle et que le film, la projection est terminée. Et il y a d'autres scènes, par exemple, où l'on voit cette folie et cette froideur des personnages. Par exemple, quand le personnage de Marilia, incarné par Marisa Paredes, lui dit tranquillement, assis à la table du petit déjeuner, « Mais pourquoi tu ne la tues pas ?» Comme s'il lui disait, « Pourquoi tu ne prends pas une autre tartine avec un naturel ?» Et pour moi, ce qui est important, c'est cela, c'est cette froideur, cette histoire qui est racontée, qui est horrible et qui serait impossible à faire passer sans ce travail des acteurs à l'économie, comme je le disais. Donc c'est un travail à l'économie, un personnage à l'économie très intériorisé. Et donc c'est vrai, Pedro m'a interdit de sourire. Voilà, je n'ai pas pu sourire et à entrer sur les terrains où j'entre d'habitude, où je me situe d'habitude. Mais je crois que je veux remercier maintenant publiquement Pedro de m'avoir emmené sur ce terrain-là que je ne connaissais pas.
Monsieur à droite.
Rodrigo Fonseca from Globo Brasil. I have two questions. The first to Almodóvar. Mr. Almodóvar, in the beginning of this masterpiece called La Piel que Habito, Zeca the Tiger mentioned Bahia. Could you tell us something about your fascination with Bahia and Brazilian music? The second question is to Bandeiras. After working with masters such as Woody Allen, Alan Parker, how do you feel coming back home to Almodóvar's universe?
Yo adoro Bahía. He estado 3 o 4 veces en casa de Caetano Veloso y es un lugar que cumple con todos los tópicos que uno ha pensado sobre él. Todas las cosas que te han contado mágicas y maravillosas sobre esa ciudad, cuando llegas descubres que son reales. No he podido poner nada más que un elemento que corresponda a la cultura brasileña, que es la canción Pelo Amor de Amar, que se convierte en un ritornello terrible en la película. Y es una película que, es una canción que incluso Caetano la conocía, no, yo la encontré en un disco sobre bandas sonoras de películas brasileñas y aparecía en la película Os Bandeirantes, que no sé si te suena, y originalmente la cantaba una cantante, creo que era muy cursi, Elena algo, no me acuerdo. No, Elena Dolima. A mí es una canción que me gusta mucho y que, bueno, sirve un poco de, quiero decir, es una para indicar brevemente, muy brevemente, mi fascinación por la música brasileña. Creo que la música y el idioma portugués, como lo brasileño, que es también música, yo creo que es uno de los lugares más ricos del mundo musicalmente hablando. A mí me gustan desde la bossa nova y antes de la bossa nova, pero también me gusta toda la música electrónica, que le sienta muy bien además a la música brasileña.
Le Bahia, j'y suis allée 3 ou 4 fois. En effet, c'est une ville que j'adore. Je suis allée 3 ou 4 fois chez Caetano Veloso. Et c'est une ville, en fait, qui finalement répond à tous les clichés qu'on a en tête. Tout ce qu'on peut s'imaginer de cette ville, quand on la voit, c'est réel. Je n'ai pu placer dans le film qu'un seul élément qui fait référence au Brésil et surtout à cette musique brésilienne qui me fascine. Et c'est cette chanson qui revient dans le film comme une ritournelle, Pelo Amor de Amar. Et Caetano lui-même ne connaissait pas bien cette chanson. C'est une chanson que moi j'avais trouvée dans la bande son d'un film. Et c'est une chanson de Osvaldo Irantes. Et puis il y a aussi des références à cette chanteuse qui était une chanteuse un peu cuculapraline. Comment s'appelait-elle déjà, Elena Dolimo? Dolimo, je crois. Et donc c'est cette chanson-là que j'ai fait revenir comme une ritournelle dans le film. Mais c'est la seule référence que j'ai pu faire à cette musique brésilienne qui me fascine véritablement, à cette langue portugaise brésilienne qui est une langue très musicale aussi. Et c'est cela le lien que j'ai pu faire dans le film. Moi, j'aime beaucoup toute la musique brésilienne, la bossa nova, bien sûr, mais aussi la musique électronique qui colle très bien, en fait, aux musiques brésiliennes.
Volver a Almodóvar es el volver al reconocimiento de que forma parte el universo Almodóvar de mi vida, en mayúsculas. Por lo que supuso en el inicio de mi carrera cinematográfica y el hecho de trabajar ahora con él de esa continuación, ¿no? Es parte de mi vida directamente. Es un poco al mismo tiempo, casi podría establecer un paralelismo con volver a mi país, a mis raíces, con todas sus miserias, con todas sus grandezas, con todas las contradicciones, con todo lo que eso conlleva, pero sentirme en casa. Esa es la el volver a Almodóvar, es volver a mi casa, de alguna manera, una casa donde me crié casi, digamos, artísticamente y desde luego frente a una cámara. Y también el reconocimiento no solamente con él, sino con actores como Marisa Paredes, con la que hemos compartido muchísimas cosas en otro tiempo, hemos roto, yo creo, probablemente de una forma inconsciente en otros momentos de nuestras vidas, muchas barreras que, aún sin saberlo en aquellos momentos, ahora se han convertido a muchas de aquellas películas en clásicos del cine español, y el reconocimiento de un tándem, de un equipo actoral nuevo, de una generación de actores nueva, extraordinaria, que yo desde que dirigí ya El Camino de los Ingleses me di cuenta de que eran mucho mejores que nosotros. El trabajar con Elena Anaya, encontrarme con una actriz de su capacidad, de su generosidad, ha sido fantástico después de llevar muchos años no trabajando en el cine español, de Blanca Suárez o de Jean Cornet, el futuro de nuestra cinematografía. Realmente ha sido bello situarme frente a estos actores cuando uno viene de una cinematografía tan importante, tan fuerte como la norteamericana, en la que estás enfrentado a actores de gran prestigio internacional, y te das cuenta de que esos actores también están en casa y que tienen un futuro extraordinario, ¿no? Y eso a mí me produce también una satisfacción, ya no de tipo personal, pero una satisfacción de sentirme que nuestro cine pues está ahí, que tiene futuro en muchos campos.
Revenir a Almodóvar, c'est d'abord une reconnaissance, la reconnaissance de la place que Pedro Almodóvar occupe dans ma vie, et pas seulement dans ma vie cinématographique, dans ma vie avec un grand V majuscule. C'est Pedro Almodóvar, c'est d'abord le début de ma carrière cinématographique, et aujourd'hui, au bout de 20 ans, retravailler avec lui, c'est en quelque sorte une continuation de ma vie. Et puis, revenir à Almodóvar, c'est aussi revenir à mon pays, revenir à mes racines, à mon pays avec ses misères et ses grandeurs, avec toutes ses contradictions, mais c'est aussi être chez moi, me sentir chez moi. Revenir à Almodóvar, c'est revenir chez moi. Finalement, Pedro Almodóvar a fait mon éducation artistique, et c'est grâce à ce départ, ces premiers pas que j'ai fait face à la caméra avec lui, que j'ai pu continuer ma carrière. Et puis, revenir à Almodóvar, c'est aussi revenir à une reconnaissance, des retrouvailles avec Marisa Paredes, avec qui j'avais beaucoup partagé. Je crois qu'ensemble, on avait rompu beaucoup de barrières, on avait fait des choses tout à fait nouvelles, très nouvelles à l'époque, qui aujourd'hui sont devenues finalement des classiques dans le cinéma espagnol. Mais revenir à Almodóvar, c'est aussi une reconnaissance de toute cette nouvelle génération d'acteurs que j'ai pu découvrir sur ce film. Et depuis d'ailleurs que j'ai dirigé Le Chemin des Anglais, je connaissais, j'avais approché cette nouvelle génération d'acteurs. Mais là, dans ce film, travailler aux côtés de Elena Anaya, découvrir son immense capacité de travail, son immense générosité, c'est aussi découvrir l'avenir que peut avoir le cinéma espagnol. Découvrir Jan Cornet, Blanca Suárez, c'est voir l'avenir, le futur, un futur empreint de beauté de notre cinéma. Et surtout quand, comme des acteurs comme moi, comme d'autres, nous travaillons de l'autre côté de l'Atlantique, avec, dans le cinéma américain, avec des grands acteurs de prestige, nous rendre compte que des acteurs qui ont cette capacité existent aussi dans notre pays, sont là, ont un avenir extraordinaire, c'est non seulement une grande satisfaction sur le plan personnel, mais c'est aussi une grande satisfaction parce qu'on sent que notre cinéma a un avenir.
Lo ha dicho muy bien.
Gracias.
Suena mejor en francés que en español.
Il dit que ça sonne mieux en français qu'en espagnol.
Monsieur. Voilà quel homme.
Mohamed Bouradev de la Tunisie. Une question pour Antonio. Que pensez-vous, Antonio? Pour sauver ceux que nous aimons, est-ce qu'on fait appel à l'art, au cinéma, à Pedro peut-être, ou on demande secours à la médecine et à la science? Merci.
Para salvar a los que queremos. Yo creo que ambas cosas, ¿no? Probablemente por las mismas razones por las que se debe de alimentar el cuerpo y cuidarlo de la misma manera que el alma, ¿no? Y el corazón. Si he entendido bien la pregunta, pero ambas cosas, no hay una cosa que vaya sin la otra. Yo creo que necesitamos a la ciencia de la misma manera que necesitamos a los artistas, ¿no? Sin lugar a duda.
Je crois qu'il faut les deux, en fait. Il faut bien entendu notre corps, il faut l'alimenter, il faut en prendre soin. mais il faut aussi alimenter et prendre soin de notre âme, de notre cœur. Donc, il faut les deux. Il faut à la fois la science et l'art, les artistes.
De hecho, en la película, perdona que intervenga, en la película, el personaje de Elena encuentra un enorme alivio y casi un elemento que la ayuda a mantenerse viva en Louis Bourgeois. Cuando ella ve en esa televisión capada que tiene, que solo puede ver tres canales, ve un reportaje sobre Louis Bourgeois, le impacta mucho porque en las figuras de esta artista de algún modo se reconoce y recibe una emoción enorme cuando ve aquellas muñecas hechas con, según la propia Louis Bourgeois decía, con ropa interior de ella misma. Y empieza directamente y descaradamente a pedir libros, se ven los libros, y a imitarla, las cabezas que hace, el tipo de obra que hace, que son con los trozos de vestido desgarrados, vienen directamente de Louis Bourgeois. En este caso, el arte significa que te da una idea y que te inspira o tal. No, quiero decir, directamente te ayuda a sobrevivir. La ciencia lleva otro camino. La ciencia, yo creo que la ciencia hará que lo que entendemos ahora como humanidad termine y se convierta en otra cosa si continúa por el camino en que está ahora mismo, a pesar de que tenga muchas barreras para desarrollarse. Ganaremos mucho con eso, pero yo creo que hay una enorme incógnita acerca de hacia dónde nos lleva una situación en la que en el futuro el ser humano va a poder determinar a través de la terapia genética los elementos y las condiciones y las particularidades con las que van a hacer un nuevo ser. De hecho, es que ya se ha descubierto la célula que crea vida. Entonces, yo creo que la ciencia nos va a ayudar mucho, pero también nos va a poner en un abismo que ahora mismo nadie sabe hacia dónde vamos. Pero en cualquier caso, queramos o no, la ciencia seguirá su camino. Y el arte siempre va a estar para ayudarnos. O nos va a acompañar, o nos va a dar placer, o en el caso de Elena, nos va a ayudar a sobrevivir.
Dans le film, Elena, le personnage incarné par Elena, trouve un véritable soulagement à voir des œuvres d'art, les images de Louise Bourgeois. C'est pour elle, en fait, un moteur de survie. La première fois qu'elle voit ces images de Louise Bourgeois à la télévision, où elle n'a droit de voir que trois chaînes, et elle voit ce reportage et elle est vraiment frappée par les images de cet artiste qui crée les poupées avec ses propres sous-vêtements, comme elle le dit dans le reportage. Et à partir de ce moment-là, le personnage d'Elena commence à demander des livres avec des images de ses créations de Louise Bourgeois. On voit les livres dans le film et elle se met elle-même à créer en imitant les poupées avec ses robes qu'elle déchire en petits morceaux. Et donc l'art, pour elle, ce n'est pas seulement une source d'inspiration, c'est quelque chose qui va l'aider à survivre. Et la science, c'est autre chose. C'est quelque chose qui peut nous transformer complètement. Heureusement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de barrières, mais on sait que la science va transformer l'être humain et que la science nous amène vers un inconnu dont on ne peut pas savoir aujourd'hui ce qu'il va devenir. Un avenir où l'être humain pourra être transformé, pourra être complètement différent. Avec les thérapies géniques, on pourra choisir telle ou telle caractéristique de l'enfant auquel on veut donner naissance. Et de fait, d'ailleurs, la génétique a permis aujourd'hui d'identifier la cellule souche créatrice de vie. Donc la science, en fait, avance à son rythme, à son propre chemin, et elle nous emmène au bord d'une sorte d'abîme où personne ne sait où on va aller. Donc la science va poursuivre son chemin et l'art, lui, sera toujours là pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous procurer du plaisir aussi, et dans le cas du personnage d'Elena, pour nous aider à survivre.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup.
Yeah.